Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Chef d'État, intellectuel et écrivain, ici Maxime Coutier à Aujourd'hui l'Histoire. Léopold Sédar Senghor, le poète président du Sénégal, chantre de la fierté noire.
Je ne sais pas s'il y a un mythe Senghor, mais si on considère qu'il existe, il a été construit par à la fois ses idées, sa pratique en tant qu'intellectuel intervenant non pas seulement dans les débats africains, mais dans les débats du monde. Senghor, c'est une reconstitution historique du rôle de l'Afrique dans le temps du monde, du rôle de l'Afrique dans la civilisation.
L'historien Mamadou Diouf, interrogé par le journal Le Monde à l'occasion des 20 ans de la mort du premier président de la République du Sénégal. Homme de lettres, chef d'État, brillant intellectuel, Léopold Sédar Senghor est tout à la fois. Icône pour les uns, énigme pour les autres, il demeure l'un des Africains les plus célèbres du 20e siècle. Amoureux de la langue, fier Sénégalais, Senghor répétait souvent qu'il fallait réveiller l'Afrique de son sommeil millénaire. C'est ce qu'il fera en réhabilitant son histoire et sa culture et en combattant sans cesse les préjugés, le mépris et l'ignorance.
Cette vibrante unanimité, je l'ai sentie hier dans les rues de notre capitale où le peuple, toute race mêlée, noir, arabe, berbère, européen, clamait sa foi dans le Sénégal indépendant. Je suis sensible, pourquoi le cacher, à cette affectueuse confiance. Précisément à cause de cela, je suis profondément conscient des graves devoirs de ma charge. Il m'appartient de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire de la République. Je n'y faillirai pas. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Si je t'ai tant chanté, et de préférence ce pays bas où dorment mes ancêtres sous les palmes et l'Alizé. Si je t'ai tant chanté, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair, la chair de nos morts.
Discours d'investiture de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant, c'était en 1960, poste qu'il va occuper durant une vingtaine d'années avant de céder le pouvoir lui-même en 1980. Alors pour nous parler de cet homme exceptionnel, mon invité Blaise Ndala, il est écrivain et juriste. Il a écrit, entre autres, en 2014, un roman qui a pour titre « J'irai danser sur la tombe de Senghor ». Bonjour, M. Ndala.
Bonjour, M. Cloutier.
Ah, pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Senghor?
Alors, au-delà du clin d'œil que je fais à Boris Vian, Senghor vient dans ce titre parce qu'il représente pour moi à la fois le grand intellectuel, comme vous l'avez dit en introduction, le grand intellectuel africain, l'une des premières figures qui va porter la voix du peuple noir, comme on disait, sur la scène internationale à une période, celle de la colonisation, où la question noire est fondamentale, où les inégalités inhérentes à tout système colonial sont criantes, et son œuvre poétique et essayistique va traverser le temps, continue encore à résonner de nos jours. C'est pour ça qu'il me parle. C'est simplement parce qu'on est à la période des pères des indépendances, comme on disait, celle des années 60-70, qui voit l'Afrique accéder à la souveraineté internationale. Et aux côtés de Mobutu, qui est l'autre figure de ce roman, mais il fait justement figure de ces pères qui, derrière des idéologies comme la négritude, comme l'authenticité, vont marquer durablement le sort de l'Afrique.
Oui, tout à fait. En Afrique et ailleurs, hein, sur à peu près bon nombre de continents. En parlant brièvement de son enfance, il est lui-même issu d'une minorité au Sénégal. Il est catholique et sérère.
Exactement, il est dans une double minorité, hein. Donc il est né en 1906 à Joal, qui est une petite ville côtière au sud de Dakar, d'un père commerçant catholique, donc une minorité dans une communauté musulmane, un père sérère, une ethnie minoritaire parmi d'autres ethnies sénégalaises beaucoup plus importantes. Donc cette double appartenance à des minorités va aussi sans doute marquer la pensée, notamment sur ce qu'il va développer comme il appellera ça la civilisation de l'universel, qui consiste en fait à s'approprier, à revendiquer sa particularité noire ou sérère, mais à la transcender pour aller rejoindre l'autre au nom de certaines valeurs qui peuvent être celles des humains, tout simplement.
Oui. À l'âge de 22 ans, donc, il obtient une bourse pour aller étudier en France. Il quitte le Sénégal pour la première fois de sa vie. Et là, c'est un voyage déterminant. En fait, c'est le voyage qui va changer sa vie.
C'est le voyage qui va changer sa vie. Ça arrive alors qu'il vient d'obtenir donc une demi-bourse. C'est un élève extrêmement brillant chez les pères spiritains à Nzagobil, où il a étudié, puis à Dakar, au collège Saint-François Liberman. Donc, il arrive en France à 22 ans. Il fait vraiment le grand écart parce qu'il a connu la colonisation sur les terres de ce qu'on a appelé l'Afrique occidentale française, du côté de Sénégal. Et là, il arrive en métropole. Et il va être plongé dans cet univers où des intellectuels noirs qui viennent de Martinique comme Aimé Césaire, qui deviendra son ami, de Guyane comme Louis-Gontran Damas, autre poète qui sera également l'un des amis avec qui il fondera le mouvement de la négritude, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais il va également être aux prises avec d'autres intellectuels français qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées que lui. Je pense ici à Jean-Paul Sartre, je pense à Michel Léris, je pense à Georges Balandier, et plus tard à Georges Pompidou, homme politique que l'on connaît, qui deviendra président de la France, avec qui il va étudier, et qui tous vont être ceux qui vont influencer sa pensée et qui vont renforcer, en tout cas être partie prenante à ses côtés dans la lutte pour la décolonisation, à la fois intellectuelle et politique, qui va suivre pendant son séjour et puis plus tard quand il revient au Sénégal.
Donc des grosses pointures, hein. Il fraye donc dans ce monde intellectuel en France, à Paris, et c'est là aussi, vous l'avez dit, qu'il se lie d'amitié avec Aimé Césaire, homme de lettres, écrivain. Là encore, une rencontre déterminante pour les deux hommes. D'ailleurs, on va écouter Aimé Césaire lui-même au sujet de sa longue amitié. C'était au micro des radios de la CRPLF, novembre 1976.
On peut accorder une grande valeur à l'amitié et pourtant n'avoir pas vécu de grandes amitiés. Mais toi, je crois que tu as eu de grandes amitiés.
Ah, ça, je crois que j'ai eu de grandes amitiés. J'ai eu la chance d'avoir de grandes amitiés.
Quels sont ces amis? Est-ce qu'on peut les connaître? Est-ce qu'on peut être avec toi un peu?
Ah ben, si, enfin, écoute, j'ai pour toujours une certaine pudeur à parler de ces choses-là. Enfin, il est tout à fait évident qu'un homme comme, par exemple, Senghor a été vraiment un très grand ami pour moi. Maintenant, il est devenu président de la République, etc. Enfin, mais je dois dire que pendant près de 10 ans, nous avons vécu côte à côte. On s'est vus tous les jours, toutes les semaines. Et j'ai su ce qu'il lisait, il savait ce que je faisais, ce que je lisais. Nous avons échangé des idées. J'étais infiniment plus près de lui que de n'importe lequel de mes compatriotes, qui parfois me faisaient des scènes de jalousie. Et c'est évident que nous sommes formés l'un au contact de l'autre. Et il m'a ouvert des horizons qui ont beaucoup compté dans ma vie. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans 5 ans, c'est que je crois que nous sommes vraiment formés en même temps. Parce qu'on a été confrontés vraiment par les mêmes événements. Et ça, c'est extrêmement important, ça.
C'est intéressant parce qu'il insiste sur la formation qu'ils ont reçue, hein, le réveil intellectuel à ce moment-là, durant leur jeunesse. Et ce sont eux, Senghor et Césaire, qui vont devenir les chefs de file d'un courant très important, à la fois politique et artistique, vous l'avez évoqué, la négritude. Alors, comment on pourrait définir ce concept, ce courant?
Alors, je pense que le mieux, c'est de revenir à l'une des définitions que Senghor en donne lui-même. Il en a donné plusieurs parce qu'il a affiné sa pensée, il a affiné cette notion qui avait été lancée au départ par Césaire, l'ami dont vous veniez de parler et dont on a entendu l'extrait. Et donc, en 1977, Senghor définit la négritude comme suit. C'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie et les œuvres de noir. Plus tard, il essaiera d'affiner cette définition en disant que ce n'était rien d'autre que la volonté d'être soi-même, ou alors c'était une arme de combat pour la décolonisation. C'est comme ça qu'il l'a défini.
Non, c'est un mouvement d'émancipation. C'est comme ça qu'il faut le voir.
C'est un mouvement d'émancipation sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, également pour sur le plan carrément politique. C'est un mouvement de libération de Noirs. Il faut savoir que ce mouvement, il naît alors qu'on se retrouve dans ce Paris de ces années où le mouvement de la Renaissance de Harlem, mené par des Américains, est très présent, résonne dans Paris. Des gens comme James Baldwin, qui sont aux avant-postes, qui ont fui, la ségrégation raciale se retrouve en France. D'autres comme Dubois, Langston Hughes, Claude Mackay, Richard White, tous ces intellectuels afro-américains côtoient Senghor autour de la revue du Monde Noir qu'ils ont créée à Paris. Donc c'est sous toute cette influence qui vise l'émancipation de Noirs qu'est née la négritude. Et c'est pour cette raison précisément que le combat va avoir une dimension politique dès le départ, et cette dimension connaîtra en quelque sorte son accomplissement avec les indépendances des pays africains, pour les Africains, pour ceux qui viennent du continent, et puis le statut de département et territoire d'outre-mer pour ceux qui, comme Césaire ou Damas, venaient des îles des Caraïbes.
Ce concept, vous l'avez dit, qui évolue avec le temps, et c'est intéressant parce que vous citiez Senghor, justement, sa définition. On va écouter celle qu'il en donnait, Léopold Senghor, au micro du journaliste français Jean-Antoine, justement, au sujet de la négritude.
La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. Plus précisément, la négritude se caractérise par certaines valeurs, dans le domaine social et politique par exemple, par une certaine forme de démocratie qui s'exprime dans la palabre, où tous les membres d'une assemblée doivent donner leur avis, mais où, ayant donné leur avis, ils doivent se ranger à l'avis de la majorité, de telle sorte qu'après la délibération, il y a unanimité. C'est ce qui explique les régimes présidentiels qui existent actuellement en Afrique noire, par le sens du dialogue.
Intéressant quand il dit c'est une certaine forme de démocratie. Et ça nous amène à parler de Senghor, le chef d'État, parce que souvent il va dire qu'il est tombé en politique, un peu sans le vouloir. Alors, comment il devient comme ça le père de l'indépendance, le premier président de la jeune République du Sénégal?
Tombé. Et non, en même temps, j'ai envie de dire, parce que quand on voit les cheminements qui est les siens autour de la négritude, comme je le disais, la vocation politique de ce mouvement, le fait qu'il a déjà eu à exercer les plus hautes fonctions d'État en étant en France. Il a quand même siégé au Palais Bourbon, hein, comme député pour représenter le Sénégal, pour représenter l'Outre-mer. Il a été réélu à plusieurs reprises. C'est quand même une personnalité politique qui a déjà un long, long passé, un long parcours derrière lui quand finalement il arrive à la tête du Sénégal indépendant. Et là encore, il faut préciser qu'au départ, Senghor n'est pas vraiment pour l'indépendance telle qu'on va la connaître en 60. Il est plus pour une fédération d'États africains qui resterait arrimée à la France. Senghor, comme Oufouette Boigny, comme d'autres dirigeants beaucoup plus alignés sur la France, choisit plutôt de rester dans une sorte de fédération française qui s'étendrait à l'Afrique de l'Ouest. Mais bon, la majorité n'étant pas de son bord, finalement, il va décider avec Modibo Keïta du Soudan français, l'actuel Mali, de créer ce qu'on va appeler à l'époque la Fédération du Mali, qui regroupera en fait l'actuel Sénégal, l'actuel Mali, le Dahomey, actuel Bénin, et la Haute Volta, qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso.
Oui.
Malheureusement, c'est une union qui aura cours. Et c'est comme ça que, août 1960, face au désengagement d'autres parties prenantes, Senghor constatera simplement un état de fait. Modibo Keïta, de son côté, proclamera l'indépendance soudanaise qui deviendra le Mali le 22 septembre. Et dans la foulée, le 5 septembre 1960, Senghor sera élu président du Sénégal. Et c'est en ce moment-là qu'il commencera donc cette carrière politique nationale, cette fois-ci, à la tête du Sénégal, jusque pratiquement en 1980, après avoir été réélu à trois reprises. 1980, l'année où il se soumet, décide en fait de rendre le tablier volontairement et d'appliquer l'article 35 de la Constitution du Sénégal, qui fait de son premier ministre de l'époque, un certain Abdou Diouf, le président du Sénégal.
Oui, fait rare en Afrique, le fait qu'il renonce lui-même donc au pouvoir. Donc, il va assumer ses fonctions de chef d'État, avec discipline, bien sûr, toute sa vie, mais toute sa vie, en même temps, la question va se poser. Hein? Poète ou bien président? D'autant plus que, je lisais quelque part, que tel un enseignant, ce qu'il était, souvent, il gouverne le Sénégal durant l'année et durant l'été, il part en Normandie écrire, ce qui est assez curieux.
Exactement, ça c'est très caractéristique de ce qu'a été Senghor. Donc il a exercé avec dignité en fait les deux fonctions. Il a résisté, même démenti l'injonction, disons, il a résisté à l'injonction de Platon qui, dans la République, disait que le poète devait s'interdire de diriger la cité pour ne pas se salir. Certes, il y a eu beaucoup de dérives quand même, dont on parle peu. Le procès qu'il a fait à son ami Mamadou Dia, qui était le président du conseil, qu'il a envoyé en prison dans des conditions absolument injustes, avec un faux coup d'État monté de toutes pièces. Il a eu beaucoup de signes aussi, parfois des dérives autoritaires vis-à-vis d'un autre intellectuel, Cheikh Anta Diop. Il n'a pas toujours été le démocrate irréprochable qu'on nous a vendu. Mais globalement, il a été plutôt quelqu'un de digne, qui n'a pas sombré dans les dérives du genre Sékou Touré, Mobutu et d'autres. Et parallèlement, effectivement, son activité littéraire n'a pas ralenti d'un poil. Il se rendait en Normandie, qui était la région d'où venait sa deuxième femme, qu'il avait épousée. Et donc, il continuait à écrire. Et même sur le plan politique, cet aspect littéraire, cette dualité l'a poursuivi parce qu'il va marquer quand même son début de règne avec des activités, des événements comme le premier festival international des arts nègres en 1966. Et puis, il va quand même être parmi ceux qui vont lancer sur le fonds baptismaux le mouvement de la francophonie politique. Donc on voit bien qu'il a continué à jouer sur les deux registres sans vraiment renier ni l'homme politique ni le poète, jusqu'à ce que, évidemment, le côté poète, le côté écrivain l'emporte sur l'animateur, le gestionnaire de la cité.
Oui, l'amour des mots, hein. Avant tout, un grand amoureux de la langue française qu'il va promouvoir, qu'il va défendre avec passion, vous l'avez évoqué, la francophonie. Comment il participe à la création de la francophonie?
En fait, chez lui, le déclic part d'un article qu'il publie en 1962 qui est intitulé « Le français, langue de culture » et dont est extrait la célèbre définition de la francophonie qu'il donne, qui est pour lui, la francophonie serait donc un humanisme intégral qui s'étisse autour de la terre et bien entendu de la langue. Donc, il considère qu'il y a un ensemble de valeurs autour desquelles pourrait s'agréger l'espace francophone. Un espace qui serait respectueux, évidemment, des identités. Et il imagine même une collaboration avec d'autres langues latines. On parle de l'italien, de l'espagnol, mais également de langues nationales, parce qu'il estime que cet universalisme-là ne pourrait avoir droit de cité que s'il laissait les autres langues cheminer aux côtés de la langue française. C'est ainsi donc que, lors de la première conférence de la francophonie en 69, il va donc envoyer des émissaires à Niamey, là où la conférence va se tenir, et il leur donnera comme mission, c'est dit dans un des messages qui les accompagne, il dit « La création d'une communauté de langues françaises sera peut-être la première du genre dans l'histoire moderne. Elle exprime le besoin de notre époque où l'homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l'auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit, en même temps, à sa propre mesure et à celle du cosmos. » Donc, c'est comme ça que, dans la foulée, il va être rejoint par Habib Bourguiba, qui est le père de l'indépendance de la Tunisie, Amani Diori du Niger, Norodom Sihanouk du Cambodge, le journaliste et écrivain Marcel Léger du Québec. Hein. Oui. Et donc, ensemble, ils vont être les pères fondateurs qui vont porter sur le fond baptismaux cet espace politique sur fond linguistique qui deviendra l'OIF, et que nous avons encore aujourd'hui.
Oui. Donc, de très, très grandes ambitions, et puis une place importante, bien sûr, pour l'Afrique, parce que ça demeure important. Il y a bon nombre de locuteurs francophones se trouvent en Afrique. À ce sujet, d'ailleurs, on va l'écouter, c'était à notre télé, à Radio-Canada, 13 novembre 1960, l'émission Format 60.
On peut dire que le tiers de l'Afrique est francophone, peut-être francophone. Je pense donc que ces États de langue française peuvent jouer un très grand rôle en Afrique à cause même des vertus de la culture française. La langue française est un instrument admirable de méthode, de clarté, de précision. Or, vous le savez, il suffit de penser bien pour parler bien et surtout pour agir bien. La langue française a une sorte de vertu de catharsis. Elle nous permet de mieux voir dans nos pensées. Je pense donc que les États de langue française peuvent jouer un grand rôle dans le développement de l'Afrique.
preuve aussi de son amour de la langue. Hein. Il sera le premier noir élu à l'Académie française en 1983. Un honneur pour lui. Donc, une carrière exceptionnelle, un destin exceptionnel. Et pourtant, même 20 ans après sa mort, hein, Senghor suscite toujours des débats au Sénégal et ailleurs en Afrique. Pourquoi?
Parce que Senghor est un être extrêmement complexe. Il demeure, vous l'avez dit, une sorte d'énigme. Il y avait beaucoup d'ambiguïté à la fois dans sa théorie, dans la manière de théoriser le fait noir, la négritude et dans la manière de la vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Ce qu'on va lui reprocher, notamment, c'est le fait, par exemple, d'exalter cette civilisation de l'universel, cet attachement à la France. Il va par exemple dire dans un vers assez célèbre qu'il rêve de fraternité avec ses frères aux yeux bleus, en parlant des Européens. Ah mais oui. Ces vers sont écrits en une période où la domination coloniale est assez violente hein, sur l'ensemble du continent noir. Donc les gens ne comprennent pas toujours, en tout cas certaines critiques ne comprennent pas, qu'il ferme le yeux à cette violence coloniale pour exalter cette fraternité, ce rapport noir-blanc sur des valeurs qu'eux ne retrouvent pas dans le vécu, dans le réel de ce qu'ils vivent. Ça, c'est l'une des critiques fondamentales. L'autre critique repose sur ce qu'on a considéré comme une sorte d'essentialisation de noir. À vouloir revenir constamment sur la question noire en la définissant cette identité, en tout cas en l'illustrant par deux faits. On l'a entendu dans l'extrait, l'un des extraits que vous avez mis, la danse, hein, le rythme, la beauté de la nature, toutes ces choses qui... finalement, peuvent se discuter. Est-ce que le noir, par exemple, aurait ce sens du rythme qui manquerait au blanc? Est-ce qu'on ne nourrit pas, dans ces cas-là, les mêmes stéréotypes que les théories racialistes de l'époque véhiculées autour de noir? Donc, il y a eu ces malaises-là qui disaient, mais en même temps, est-ce qu'il ne sert pas davantage la cause du dominant que du dominé? Dans les faits aussi, et là je vais reprendre un peu les critiques venant de quelqu'un qui est quelqu'un de très remarquable, le prix Nobel de littérature 1986, le Nigérian Wole Soyinka, qui lui disait, je le cite, que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il saute et se saisit de sa proie. Donc il disait que toute cette prose, tous ces beaux discours, toutes ces théories sur la négritude n'aboutissaient finalement à rien de concret puisque le noir restait dominé et qu'il fallait plutôt s'engager de manière active pour changer les choses, pour renverser le rapport de force entre l'Occident et l'Afrique coloniale à cette époque-là. Pour différentes raisons, essentiellement pour certaines ambiguïtés qu'on a attribuées à Senghor, il est resté une sorte d'énigme. Quand il va, par exemple, en 1951, devant le Pen Club de Bruxelles, où il s'exprime devant des écrivains francophones de Belgique, en vantant ce qu'il appelle encore une fois la civilisation de l'universel, le métissage culturel qui est pour lui l'horizon vers lequel on doit tendre, il dit « mais cet horizon, cette mixité, les Belges le démontrent de manière absolument admirable au Congo belge ». On sait qu'à la même période, le Congo belge est l'anti-modèle même, que c'est une colonisation très violente qui a un passé extrêmement lourd. On se demande si vraiment Senghor n'est pas assez aveuglé par cet amour inconditionnel de la langue française et cette admiration béate de la France et que ça lui fait perdre parfois une certaine lance sur les réalités beaucoup plus contemporaines qui touchent au vécu et au sort de Noirs à la période où il s'exprime. Donc tout ça a créé un regard plutôt, je dirais, sur l'héritage qu'il a pu laisser politiquement et idéologiquement.
Oui. Intéressant, en tout cas, parce qu'au sujet de la Belgique et de la colonisation hein, du Congo, ce fut effectivement extrêmement violent. Mon invité, je rappelle, Blaise Ndala. Il est écrivain, il est juriste. Il a écrit, entre autres, en 2014, un roman qui avait pour titre « J'irai danser sur la tombe de Senghor ». Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce personnage fascinant.
Merci, Monsieur Cloutier, et à une prochaine émission, à un autre rendez-vous.
Oui, on l'espère bien. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Cloutier, là-dessus, je vous souhaite une très, très bonne soirée. À bientôt. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada. Audio.
Découvrez la programmation 24/25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. en vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.